Vous écoutez, on lit pour vous.
Donnez-vous à l'amitié la place qu'elle mérite. Un texte commandité paru le 26 mai 2025 dans la presse. Dans une société qui valorise le couple, la famille et la carrière, les amitiés sont parfois reléguées au second plan. Pourtant, ces relations peuvent être très profondes et déterminantes pour votre bien-être et votre santé affective. Priorisez l'amitié. L'essayiste Karine Côté-Andretti a consacré son premier livre, « Port d'attache aux ondes, révolutionner nos amitiés », au sujet de l'amitié. Il y a une hiérarchie dans nos relations, souligne-t-elle. On positionne le couple au-dessus de tout, dit-elle. On gagnerait pourtant beaucoup à voir nos amis comme de vrais compagnons de vie et à les mettre sur un pied d'égalité avec nos relations familiales. Pour y arriver toutefois, l'autrice explique qu'il faut créer de l'espace dans sa vie et libérer du temps pour ses amitiés. La famille choisie. En amitié, tu es là par choix, fait valoir Karine Côté-Andretti. Ça donne lieu à des relations souvent plus équilibrées, puisque les deux personnes bâtissent leurs liens sans obligation l'une envers l'autre, sans partager une maison ou des enfants. Le concept de « famille choisie », qui tire ses origines de la communauté queer, est d'ailleurs de plus en plus répandu parmi les générations Y et Z. Certaines personnes, ayant été rejetées par leur famille biologique, trouvent auprès d'amis choisis avec soin des piliers similaires à ceux que représentent les membres d'une famille saine. Ce soutien permet de créer un attachement sécurisant et de réparer des blessures, ajoute l'essayiste. L'importance des chicanes. Nombreux sont ceux et celles qui vivent leurs amitiés sans jamais plonger dans des discussions inconfortables. On a tendance à penser que l'amitié n'est que belle, bonne et facile. Pourtant, je valorise les chicanes, explique Mme Côté-Andretti. Pas des chicanes toxiques et malsaines, mais des conversations vraies où l'on ose nommer nos besoins, nos limites. Ces moments approfondissent l'intimité entre deux amis et assurent une réciprocité dans la relation. L'autrice ajoute qu'une posture de curiosité est essentielle pour que ces conversations plus ardues amènent du positif. Plutôt que de tenter de convaincre l'autre personne, l'attitude à adopter vise à essayer de comprendre l'autre, à se montrer curieux de connaître son point de vue. Face à face, côte à côte. Les amitiés féminines ont tendance à se dérouler sur le mode face à face, c'est-à-dire à être basées sur la conversation. Ces discussions sont généralement des sessions de rattrapage où une personne informe l'autre de ce qui s'est passé dans sa vie récemment. Les hommes, eux, privilégient plus souvent une approche côte à côte où ils cultivent des liens grâce à des activités comme la pratique commune d'un sport. Pour Karine Côté-Andretti, les relations les plus riches sont celles qui intègrent ces deux modes d'amitié. Plutôt que d'être constamment en train de se raconter nos vies, vivons-les ensemble, dit-elle. Ces moments consacrés aux activités entre amis permettent d'entretenir une culture commune et de développer un sentiment d'appartenance à l'espace que représente cette amitié. Conjuguer maternité et amitié. Les amitiés sont-elles plus dures à entretenir pour les femmes? Oui et non, répond l'experte. Les femmes, par la manière dont elles sont socialisées, ont plus de vocabulaire pour traduire leur vulnérabilité. On montre aux hommes à réprimer leurs émotions, et c'est difficile de créer un lien profond avec quelqu'un lorsqu'on n'a pas accès à sa vulnérabilité. En revanche, les choses se compliquent quand les amis traversent la maternité. Les mères vivent souvent une solitude exacerbée, particulièrement lorsque leurs copines n'ont pas d'enfants. Et bien sûr, l'aspect du manque de temps et d'énergie inhérent à la maternité vient lui aussi miner certains liens. Néanmoins, Karine Côté-Andretti, pleine d'espoir, souligne que des relations mises en sourdine peuvent redevenir centrales si elles sont placées au sommet des priorités. L'amitié est un espace où l'on peut trouver des partenaires de vie et nous tirer de la solitude, qui est de plus en plus répandue et nocive dans notre société, conclut-elle. C'était « Donnez-vous à l'amitié la place qu'elle mérite », un texte commandité paru le 26 mai 2025 dans La Presse.
Les protéines, des alliés pour vieillir en force. Une entrevue avec Louise Lambert-Lagacé parue le 15 mai 2025 dans Virage. À mesure qu'on avance en âge, nos besoins en protéines augmentent. Pourtant, près de la moitié des personnes de 65 ans et plus n'en consomment pas suffisamment, déplore la nutritionniste Louise Lambert-Lagacé, soulignant leur importance dans la persévération de la masse musculaire. Dans votre plus récent livre, vous mettez de l'avant l'importance de ce que vous appelez le réflexe protéine. Pourquoi les protéines sont-elles si essentielles pour les personnes de 65 ans et plus? Le corps les métabolise moins efficacement, ce qui signifie que la même quantité de protéines consommée à 40 ans n'aura pas les mêmes effets à 65 ou 75 ans. Notre masse musculaire diminue naturellement avec l'âge, mais nous pouvons ralentir ce processus en ajustant notre alimentation. Malheureusement, cette notion est encore peu connue, et les études menées au Québec et ailleurs montrent que près de 50 % des personnes aînées ne comblent pas leurs besoins quotidiens en protéines. C'est une situation préoccupante, car une carence en protéines peut entraîner une perte de force musculaire, ce qui accroît le risque de fragilité. Celle-ci peut conduire certaines personnes à devoir intégrer un CHSLD plus tôt que prévu, alors qu'elles auraient préféré rester à domicile. C'est pourquoi il est essentiel de développer un réflexe protéine à chaque repas. Les gens ont-ils tendance à surestimer leur consommation de protéines? Beaucoup de personnes ne réalisent pas que leurs besoins augmentent avec l'âge. Un déjeuner composé d'une seule tranche de pain avec de la confiture et un café, suivi d'un sandwich léger au dîner, c'est assez courant, mais cela ne fournit pas assez de protéines. Une grande salade avec un petit morceau de fromage ou un simple œuf à la coque ne suffisent pas non plus. Ce sont de bons aliments, mais en quantité insuffisante. C'est un des points centraux de mon livre. Certaines personnes vont se dire qu'elles compensent en mangeant un bon morceau de viande au souper, mais il faut aussi savoir que le corps assimile mieux les protéines lorsqu'elles sont réparties sur plusieurs repas. Un steak le soir ne sera pas totalement assimilé, car l'organisme à un certain âge ne peut pas traiter une grande quantité de protéines en une seule fois. Les études montrent qu'une répartition optimale sur trois repas, voire plus, est idéale. On fonctionne mieux en répartissant les protéines tout au long de la journée, y compris lors des collations. Est-ce qu'il existe des solutions simples pour intégrer plus de protéines au quotidien? Oui. Par exemple, vous pouvez choisir du lait enrichi de protéines, qui est facilement accessible. Les yogourts grecs sont également une bonne option, car ils contiennent davantage de protéines que les yogourts classiques. Ces aliments sont simples à intégrer dans les repas et peuvent servir de complément si l'on se rend compte qu'on n'a pas consommé suffisamment de protéines au cours de la journée. Je me souviens d'une conférence où une personne m'a demandé ce qu'elle devait faire avec son sandwich à la tomate. Je lui ai simplement suggéré d'ajouter deux tranches de fromage ou un yogourt grec en dessert. On ne perd pas les aliments qu'on aime, mais on les enrichit en protéines. Dans mon livre « Il n'est jamais trop tard pour mieux se nourrir », j'ai inclus de nombreuses photos et indications sur les quantités nécessaires, car beaucoup de gens ne savent pas exactement quelle portion correspond à leurs besoins. Est-ce que les sources de protéines végétales suffisent à répondre à nos besoins en vieillissant? Actuellement, nous entendons beaucoup parler de l'importance de consommer davantage de produits d'origine végétale pour des raisons écologiques et de santé. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche, mais il faut garder en tête que les protéines animales restent nécessaires pour combler certains besoins spécifiques. Les protéines végétales seules ne suffisent pas, car elles ne contiennent pas toujours les acides aminés dans les proportions optimales pour la construction musculaire. Si on voulait avoir les effets bénéfiques juste avec des protéines végétales, il faudrait en manger beaucoup, soit au-delà de l'appétit des personnes aînées. Il est donc préférable d'avoir un équilibre entre protéines animales, poissons, poulets, viande, fromage, yogourts, etc., et végétales, légumineuses, tofu, grains entiers ou autres. Il n'est jamais trop tard pour mieux se nourrir. Écrit par les nutritionnistes Louise Lambert-Lagacé et José Thibaudeau, ce livre, publié aux Éditions de l'Homme, propose des solutions adaptées aux besoins nutritionnels des personnes aînées. Menus, recettes, astuces. Ce livre ultra-pratique de 176 pages regorge de trucs pour nous aider à faire de meilleurs choix alimentaires, de l'épicerie jusqu'à l'assiette. C'était « Les protéines, des alliés pour vieillir en force ». Une entrevue avec Louise Lambert-Lagacé, parue le 15 mai 2025 dans Virage.
Dans l'abîme de Lyme. Un texte d'Isabelle Haché, paru le 19 mai 2025 dans La Presse. Quand Amélie Champagne s'est jetée du haut d'une tour du centre-ville de Montréal en septembre 2022, on a dit que c'est la maladie de Lyme qui l'avait poussée au suicide. À la télé, le docteur Amir Kadir a déclaré qu'Amélie Champagne était la cinquième personne au Québec à mettre fin à ses jours en raison du désespoir provoqué par cette terrible maladie, encore très mal comprise par la communauté médicale. Cette version de l'histoire était, disons, très incomplète, pour ne pas dire gravement erronée. Olivier Bernard en fait la démonstration méthodique dans « Le labyrinthe de Lyme », l'excellente nouvelle saison de l'émission balado « Dérive » sur Radio-Canada Audio, excellente et surtout nécessaire. Olivier Bernard ne le dit certes pas aussi brutalement que moi. Au fil de 10 épisodes, d'environ 1 heure chacun, le pharmacien et vulgarisateur scientifique cherche à construire des ponts. Il fait preuve d'empathie envers les personnes qui souffrent sans trouver de réponse à leurs maux. Après des années d'errance médicale, ces gens-là se retrouvent coincés dans le labyrinthe de Lyme. Plusieurs n'en sortent jamais. Leurs histoires brisent le cœur, vraiment. Ça rend d'autant plus choquantes les conclusions de l'enquête exceptionnelle d'Olivier Bernard. Sous leur vernis compatissant, plusieurs acteurs de l'industrie de Lyme, car c'en est une, ignorent la détresse de ces malades ou, pire, en profitent pour s'en mettre plein les poches. Olivier Bernard revisite l'histoire des 5 Québécois dont on a publiquement attribué le suicide à une forme chronique de la maladie de Lyme. Premier constat, il est fort probable qu'aucun d'eux n'ait été atteint de cette maladie, dont l'existence, sous cette forme persistante, est sérieusement remise en doute par les scientifiques. Aucun d'eux n'avait reçu un diagnostic positif à la maladie de Lyme après avoir passé les tests recommandés par les experts. Ils s'étaient tournés vers des labos privés aux États-Unis qui facturent le gros prix pour des tests douteux conçus de manière à donner des résultats presque invariablement positifs. Les 5 Québécois souffraient tous d'importants problèmes de santé mentale et avaient fait face à de dures épreuves avant de passer à l'acte. Une détresse psychologique sur laquelle des spécialistes autoproclamés de la maladie de Lyme chronique ont fermé les yeux, préférant leur administrer des traitements dont l'efficacité n'a jamais été prouvée. Pire, les lourds traitements expérimentaux qu'on leur a fait subir ont aggravé leurs maux physiques et psychologiques. Loin d'améliorer leur santé, ces dangereux cocktails d'antibiotiques avalés pendant des mois, voire des années, les ont probablement poussés un peu plus près de l'abîme, ou tout au fond. Quand Joanne Lévesque s'est suicidée en 2021, certains médias ont rapporté qu'elle avait perdu un combat de 20 ans contre la maladie de Lyme. Selon le rapport du coroner, Joanne Lévesque avait pourtant reçu un tout autre diagnostic avant de mourir. Trouble de la personnalité limite, auquel s'ajoutait un trouble dépressif majeur avec risque suicidaire. Quand elle acceptait de prendre des antidépresseurs, elle se sentait mieux et estimait être guérie à 85 % de la maladie de Lyme. Quand elle arrêtait de les prendre, elle replongeait dans le labyrinthe. Dans un livre qu'elle a écrit en 2020, « Folle ou malade de Lyme? » Joanne Lévesque dresse la liste des antibiotiques qu'elle ingurgitait. Le cocktail était tellement puissant qu'elle a fini par perdre des dents. Elle a perdu ses cheveux. Elle n'arrivait plus à marcher. Elle rampait. Tout son corps brûlait. Elle était traitée par Maureen McShane, une omnipraticienne américaine qui s'est longtemps prétendue spécialiste de la maladie de Lyme chronique, puis par un médecin québécois qui n'est pas nommé dans le livre ni dans l'émission Balado, mais qui navigue lui aussi à contre-courant du consensus scientifique. Sa famille a tenté de la faire hospitaliser en urgence psychiatrique. Pendant ce temps, son médecin québécois ne semblait accorder aucune attention à son état psychologique. Moi, je ne comprenais pas pourquoi, lui, il traitait juste la maladie de Lyme. Elle avait des problèmes de santé mentale avant tout, et il fallait traiter ça. S'étonne une proche de Joanne Lévesque dans l'émission Balado. Enfant, Amélie Champagne faisait des crises de panique. Elle avait des phobies et des traits obsessionnels compulsifs. Un an avant son suicide, elle avait reçu un diagnostic de trouble d'anxiété généralisée. Mais son état s'est dégradé à partir du moment où elle s'est mise à consulter des forums de discussion sur la maladie de Lyme et à prendre des antibiotiques multiples. Les médicaments l'empêchaient de dormir. S'est-elle inquiétée dans un groupe Facebook 2 mois avant de se suicider. La docteure Sophie Michaud, qui suivait Amélie Champagne en clinique privée, lui avait notamment prescrit des antiparasitaires utilisés pour traiter la malaria. Or, ces antibiotiques peuvent justement provoquer l'insomnie et la dépression. La maladie de Lyme a pris toute la place. Ce faisant, on a laissé la détresse psychologique évoluer dans l'ombre, lit-on dans le rapport de la coroner. Catherine Mathieu, une autre femme prétendument poussée à bout par la maladie de Lyme, était traitée pour une dépression et souffrait d'un trouble d'adaptation. Elle avait vécu un deuil, une rupture amoureuse et avait d'importantes difficultés financières au moment de mettre fin à ses jours en plein cœur de la pandémie. Dans le cas d'Alexandre Lapointe, un long reportage diffusé à la télévision en septembre 2018 laissait entendre que le jeune homme avait sombré dans un profond désespoir parce qu'aucun médecin québécois ne voulait croire à sa maladie de Lyme. Il a fini par se suicider. Or, le rapport du coroner montre qu'Alexandre Lapointe souffrait d'un trouble délirant lié à une hypochondrie et d'un trouble de personnalité schizoïde évident. Il craignait, entre autres, les ondes émises par son téléphone cellulaire. Dans le reportage sur la tragédie vécue par ce jeune homme, comme dans beaucoup d'autres reportages abordant la maladie de Lyme chronique, la détresse psychologique n'est jamais considérée comme l'un des facteurs qui ont pu contribuer au suicide. On en parle plutôt comme d'une conséquence du déni de la maladie. Enfin, il y a le cas d'Annie Roussy, fondatrice de l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Après son suicide en 2021, le coroner a noté qu'elle avait vécu de dures épreuves personnelles en plus de souffrir d'une dépression et d'un trouble d'adaptation. Son rapport ne fait aucune mention d'une possible maladie de Lyme. Ça n'a pas empêché Amir Kadir d'écrire au ministre de la Santé pour lui souligner que la dégradation de l'état mental d'Annie Roussy était, de toute évidence, une manifestation de la maladie. Dans l'émission Balado, Amir Kadir admet qu'il peut ne pas avoir été exact en affirmant à la télévision que la maladie de Lyme avait poussé 5 Québécois au suicide. On apprend, par ailleurs, que le docteur Kadir a mené une vaste étude clinique auprès de ses patients pour tester son approche de traitement sans que cette étude soit approuvée par un comité d'éthique. Ce n'est pas un détail lorsqu'on mène des recherches médicales. On parle de traitements expérimentaux sur des personnes vulnérables dont le diagnostic soulève des doutes sérieux. On parle de leur administrer une antibiothérapie prolongée, un traitement risqué et non recommandé. Or, non seulement cette étude clinique, qui aurait sans doute été proscrite par tout comité d'éthique, a eu lieu, mais elle a porté sur plus de 500 patients et a duré plus de 5 ans. Tout cela à l'insu de l'hôpital Pierre-Legardeur, où œuvre le docteur Kadir à titre de microbiologiste infectiologue. Ce n'est qu'en février 2024 que l'établissement, mis au parfum, a suspendu les travaux du docteur Kadir et lui a retiré son registre de données. Très peu, trop tard pour ses cobayes. Il n'y a pas que les patients d'Amir Kadir. Au Québec, des centaines de personnes souffrantes sont mal prises en charge par une poignée de naturopathes et de médecins en clinique privée qui se prétendent experts de la maladie de Lyme chronique. Leurs pratiques frôlent le charlatanisme et mènent trop souvent à la ruine de leurs patients. Il ne faut plus les laisser faire. Pour les 5 Québécois qui se sont donné la mort, c'est trop tard. Le temps est venu d'agir pour éviter d'autres tragédies. Il y a d'autres révélations choquantes dans l'émission Balado d'Olivier Bernard. J'espère sincèrement qu'il fera œuvre utile. La désinformation à propos de la maladie de Lyme est un véritable enjeu de santé publique. Un mot pour finir sur l'histoire de Stéphanie Lavoie. Non, elle ne s'est pas suicidée. En mai 2024, elle a reçu l'aide médicale à mourir. Convaincue d'être atteinte de la maladie de Lyme, elle prenait des antibiotiques depuis 5 ans. De quoi détruire sa flore intestinale et bousiller son système digestif. Coïncidence ou pas, à la fin de sa vie, Stéphanie Lavoie était incapable d'avaler la moindre nourriture, sauf des bananes. Quand elle est décédée, elle pesait 54 livres. Stéphanie Lavoie souffrait beaucoup, il n'y a aucun doute là-dessus. Il reste que l'aide médicale à mourir lui a été accordée parce qu'elle se disait atteinte d'une maladie dont l'existence, sous sa forme chronique, n'a encore jamais pu être prouvée scientifiquement. Ce n'est pas qu'une dérive, c'est un véritable scandale. C'était « Dans l'abîme de Lyme », un texte d'Isabelle Haché, paru le 19 mai 2025 dans La Presse.
En juin, je lis Autochtone, essai. Quatre suggestions de lecture de la rédaction, paru le 1er juin 2025 dans le carnet thématique Je lis Autochtone. 1. Chorégraphie pour le vivant par Léane Bétassa-Mosaki-Simpson et Robin Ménard, édition Mémoire d'Encrier. Un essai épistolaire entre une écrivaine membre des Premières Nations et une chercheuse de la communauté noire du Canada. Elles ont profité du confinement pour échanger sur plusieurs sujets d'actualité, ainsi que sur leur façon de voir les choses, de vivre et sur leurs espoirs pour le futur. Assurément, un texte qui fait réfléchir. 2. Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes par Zebedee Nungak, édition Boréal. Un essai essentiel à lire. Vous en apprendrez sur cette infâme convention de la baie James et du Nord québécois depuis le point de vue d'un de ses signataires inuits, Zebedee Nungak. Les chapitres s'enchaînent facilement, rendant l'apprentissage efficace et agréable. Découvrez le Québec et le Nunavik comme vous ne les avez jamais vus. 3. Mocassins et bottes à cap par Mélanie Paul et Marc Dutille, édition Carte blanche. Une rencontre interculturelle entre une entrepreneure Ilnu et un homme d'affaires Beauceron. Ensemble, ils abordent leur trajectoire, la spiritualité, la guérison, la réconciliation et surtout l'avenir. Un récit de transformation inspirant pour mieux vivre ensemble. 4. Rire avec le Trickster par Thompson Highway, édition Prise de parole. Avec l'humour que nous lui connaissons, Thompson Highway aborde plusieurs sujets depuis un point de vue autochtone: la mort, le sexe, la langue et la spiritualité. Les 5 textes présentés proviennent de conférences données par l'auteur. Cet érudit saura vous surprendre de plusieurs façons. C'était « En juin, je lis Autochtone, essai. 4 suggestions de lecture de la rédaction » paru le 1er juin 2025 dans le carnet thématique « Je lis Autochtone ».